1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine, que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible. Mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu ? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or, il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux de dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. De même, que les femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les serviteurs soient mariés d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi, mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire.
La dernière fois, nous avons vu un petit peu des deux premiers versets de l'épître à Timothée, du troisième chapitre de cette épître à Timothée. Cela fait suite au chapitre 2 qui nous donne l'ordre de la maison de Dieu selon la création, homme et femme, selon sa position. Cet ordre doit être reconnu premièrement avant de passer au chapitre 3, qui nous parle des serviteurs et de ceux qui ont des charges et de comment ils doivent se conduire dans la maison de Dieu. Nous avons différencié une charge d'un don. Une charge ici est locale à une assemblée, par exemple, et au contraire d'un don qui est pour tout le corps et qui est plutôt développé dans 1 Corinthiens 12 et 14. On comprend que la surveillance est la première charge mentionnée. C'est celui qui, par amour, s'occupe activement du troupeau. Il le paie, il le nourrit, il le soigne. La même fonction est reprise dans la parole avec d'autres noms, deux autres noms, ancien pour parler de l'expérience et conducteur pour parler de la capacité spirituelle pour conduire. C'est développé ailleurs, mais c'est la même fonction. Ils existent encore aujourd'hui, nous avons à les reconnaître parce que il n'y a plus d'apôtres ou de délégués d'apôtres pour les nommer. Les caractères moraux des premiers versets de ce chapitre qui sont demandés à un surveillant nous sondent tous et finalement pour chacun dans l'assemblée de Dieu. Nous avons vu les trois premiers caractères du verset 2. Premièrement, il doit être irrépréhensible. ou irréprochable dans Tite. Il doit l'être comme Christ a été sans défaut, sans tache et pur. Le péché n'avait aucune prise sur lui. On ne pouvait l'accuser justement de quoi que ce soit. Ce caractère résume tous les prochains caractères. Ensuite, il doit être mari d'une seule femme. Son foyer en bon ordre, on y voit qu'il est capable et qualifié par Dieu pour cette tâche. Et enfin, on a parlé de la sobriété. C'est la capacité du contrôle permanent de notre nature humaine et de notre vieille nature.
Je voudrais lire d'abord un verset dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 43. Ézéchiel 43, verset 11. C'est l'Éternel qui parle à Ézéchiel à propos du temple et de la construction du temple, à propos de la maison de Dieu. Verset 11, « Fais-leur connaître la forme de la maison et son arrangement et ses issues et ses entrées et toutes ses formes et toutes ses ordonnances et toutes ses formes et toutes ses lois. Et écris-les devant leurs yeux afin qu'ils observent toute sa forme et toutes ses ordonnances, et qu'il les fasse. » Nous avons lu dans 1 Timothée, au chapitre 3, verset 14, « Je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. » Dans la première épître à Timothée, nous avons donc des instructions de la part de Dieu comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant, c'est son assemblée. Et si nous lisons attentivement dans Ézéchiel 43, ce verset 11, nous voyons que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, eh bien, c'est écrit et écrit-les devant leurs yeux afin qu'ils observent toute sa forme et toutes ses ordonnances et qu'ils les fassent. Les instructions que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est afin de pratiquer, comme cela a été exprimé dans la prière tout à l'heure, afin de pratiquer ce qui est écrit dans toute la parole de Dieu. C'est observer ce que Dieu nous dit et faire ce que Dieu nous dit. Comme nous l'avions évoqué la dernière fois dans les actes, acte 20 en particulier, nous avions insisté, comme cela a été dit dans le résumé, nous avons donc trois mots dans les actes des apôtres et dans les épîtres qui sont trois aspects de la même fonction. Et ces mots nous parle d'autorité et de gouvernement dans l'Assemblée. Alors, premièrement, nous pouvons citer les anciens, des frères d'âge avancé, et le mot ancien nous parle de maturité et d'expérience, expérience acquise qui est nécessaire pour remplir cette fonction. Les surveillants, le mot se réfère plutôt au travail qui est effectué dans l'Assemblée. Et comme on l'a dit, c'est garder le troupeau mais ce n'est pas notre troupeau, c'est garder le troupeau de Dieu. Et c'est sans doute une des plus riches bénédictions pour un frère, pour un surveillant, pour un ancien, c'est de s'occuper du troupeau de Dieu. Et non seulement paître le troupeau de Dieu, c'est-à-dire lui donner de la nourriture, mais aussi de veiller sur les âmes. Le troisième aspect, ce sont bien sûr les conducteurs qui font référence à la capacité spirituelle de conduire et de guider le troupeau de Dieu dans l'assemblée et en particulier dans les affaires administratives de l'assemblée. Et alors, quel est au fond le but des anciens, des surveillants et des conducteurs? Eh bien, c'est de maintenir la sainteté et l'ordre dans la maison de Dieu et s'assurer que l'assemblée est guidée par les saintes écritures. Dans l'assemblée, nous devons être gardés d'être conduits par nos propres sentiments, notre volonté propre, mais nous avons besoin de connaître la parole de Dieu et de nous laisser guider par elle. Nous pourrions peut-être insister sur un caractère. Il demandait aux surveillants d'être sages. Dans l'épître à Tite, au premier chapitre, au verset 8, il nous est dit que le surveillant, il doit être hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine. Comment être sage? Ce qu'il faut dire, peut-être, dans 1 Timothée, nous sont présentés des caractères essentiels, des caractères moraux pour être un surveillant. Si quelqu'un aspire à la surveillance, eh bien, l'apôtre nous détaille ces caractères moraux. Et comme on l'a dit aussi dans le résumé, il n'y a pas de plusieurs niveaux dans la parole de Dieu quant aux caractères moraux que nous devons avoir les uns et les autres, frères et sœurs. Il n'y a pas des caractères moraux spéciaux pour les surveillants, des caractères moraux particuliers pour les frères ou les serviteurs, des caractères moraux pour les sœurs particuliers. Nous devons être, comme cela nous est dit dans 1 Timothée 3, eh bien, il faut être irrépréhensible ou irréprochable, c'est-à-dire que nous sommes tous au même niveau. Et Dieu ne nous demande pas aux uns un très grand niveau et aux autres un niveau inférieur. Et alors, sage, comment acquérir la sagesse? C'est une question, et nous nous souvenons sans doute de ce qui nous est dit de Salomon dans le premier livre des Rois, chapitre 3 du premier livre des Rois. L'Éternel apparut à Salomon, à Gabaon, dans un songe de la nuit, et Dieu dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon dit « Tu as usé d'une grande bonté envers ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché devant toi en vérité et en justice et en droiture de cœur avec toi, et tu lui as gardé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme il en est aujourd'hui. Et maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur en la place de David, mon père, et moi, je suis un jeune garçon, je ne sais pas sortir et entrer, et ton serviteur est au milieu de ton peuple, que tu as choisi, un peuple nombreux, qui ne peut se compter ni nombrer à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple ? Et la parole fut bonne aux yeux du Seigneur que Salomon eût demandé cette chose. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses, et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi du discernement, afin de comprendre le juste jugement, voici, j'ai fait selon ta parole. Voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent. Un cœur sage et intelligent. Comment acquérir la sagesse ? La première chose qui nous est dite, c'est de demander la sagesse. C'est-à-dire, dans les relations, dans l'assemblée, dans la conduite de l'assemblée, eh bien, nous devons avoir un cœur sage et intelligent. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas agir d'une manière naturelle. Et nous devons être conduits par Dieu. Et comment acquérir cette sagesse ? Cette sagesse qui vient d'en haut. On peut relire aussi dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement. » Il y a une expression dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Romains 16, peut-être le dernier verset, verset 27 peut-être, l'apôtre, dans une exclamation de louange, ce qu'on appelle une doxologie, il dit « Ô Dieu qui est seul sage ». C'est-à-dire, c'est seulement Dieu qui peut nous donner la sagesse. Et donc, nous avons à demander à Dieu la sagesse, et tout particulièrement le surveillant pour veiller sur le troupeau. Il a besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Et Dieu est seul sage. Nous ne pouvons pas imaginer dans nos cœurs que, avec une sagesse naturelle, nous pouvons, dans la vie de l'Assemblée, aider et veiller les uns sur les autres.
Le sujet de la sagesse est un sujet qui est abondamment présent dans l'Ancien Testament en particulier, mais à travers toute la parole. Et le dernier verset qu'a cité Michel, c'est de la fin de l'Épître aux Romains, montre bien, reliant ce mot de sage à Dieu lui-même, que c'est un caractère qui nous renvoie directement à Dieu. Alors bien sûr, la sagesse dont il est parlé de Dieu lui-même n'est pas de même contenu, si je peux dire, qu'appliqué à un humain, mais elle est là plutôt dans le cas de Dieu comme étant la référence absolue à laquelle il nous faut regarder. Pour ce que nous en réalisons, c'est une autre histoire. Mais on a quelques, je voudrais juste dire quelques expressions dans l'Ancien Testament à ce sujet pour cerner un peu ce que recouvre ce mot. Il y a d'abord deux versets dans le livre de Job, au chapitre 28. Job 28, où les premiers versets présentent toute une série de choses que l'homme est arrivé à trouver alors qu'elles sont au fond cachées. C'est la description du travail du mineur qui va chercher dans le sol des choses qui sont invisibles à l'œil quand on regarde autour de soi. Mais toute cette description se termine au verset 12 avec cette question. Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Et où est le lieu de l'intelligence? Et suit un nouveau développement qui se termine au verset 28. Voici la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal est l'intelligence. Deux facettes, sagesse, intelligence, sont des mots qui sont un petit peu, je ne sais pas si dans l'original ils devaient distinguer, je ne sais pas quelle distinction de sens est contenue là-dedans, mais c'est deux mots qui cernent un peu la même chose. C'est à la fois une certaine connaissance, pas juste une connaissance encyclopédique, mais une certaine connaissance avec la capacité d'évaluer des choses, en référence à, justement, ce qui est dit dans cette réponse, la crainte du Seigneur, se retirer du mal. La crainte du Seigneur. Cette expression de crainte du Seigneur, de crainte de Dieu, on la retrouve à beaucoup de reprises. Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Et plus loin, dans le livre des Proverbes, ça revient à plusieurs reprises, cette crainte de Dieu associée à la sagesse selon Dieu. Et si on regarde au début, on a évoqué le cas de Salomon, la situation de Salomon, qui a demandé que Dieu lui donne cette sagesse-là, par rapport à une tâche qui lui était confiée, dont il sentait bien qu'il n'en avait pas la capacité. Et dans l'Ecclésiaste, il évoque ce côté-là sous une autre facette que je ne vais pas développer parce que c'est juste un peu un à côté. Ecclésiaste 1, verset 12-13. « Moi, le prédicateur, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. » Cette sagesse utilisée là dans un but précis, je dirais un peu limité, restreint, explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Mais ça nous donne un peu un horizon de ce que cela peut vouloir dire pour nous quand il est parlé de ce surveillant qui doit être sage. La crainte de Dieu, se retirer du mal, c'est deux aspects complémentaires. Dans un sens, on peut dire, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose, mais en regardant dans deux directions opposées. La crainte de Dieu, c'est que je regarde à Dieu lui-même, qui il est et qui je suis devant lui. Qui je suis devant lui, sa créature. Nous pouvons l'exprimer autrement que ce que Salomon ou les hommes de foi de l'Ancien Testament auraient pu exprimer en leur temps. Nous pouvons l'exprimer. Un pécheur sauvé par grâce. Je suis là, debout devant Dieu, si je peux dire, par pure grâce. Et lui, il est le Tout-Puissant et il est le Rédempteur. Voilà ce qui habille en quelque sorte ce terme de crainte de Dieu. Et se retirer du mal, c'est regarder dans l'autre sens. C'est un peu l'exploration qu'a fait Salomon. Regardez ce qu'il y a sous le soleil, sur la terre, et qu'est-ce qu'on voit? Le péché qui porte plein de fruits. De fruits, les œuvres de la chair. Voilà, se retirer du mal. Voilà ce dont Dieu m'a retiré. Et ce dont je dois marcher maintenant, retirer, comme étant des choses étrangères à moi, étrangères à ce qu'il a fait de moi. Alors bien sûr, c'est un caractère que tout croyant, quel qu'il soit, le plus jeune, comme celui qui a la plus longue course, est appelé à chercher, à poursuivre, à entretenir, à nourrir. Mais, bien sûr, je reviens sur le terme de irrépréhensible, c'est-à-dire ne donnant aucune prise à une répréhension, une nécessité de corriger quelque chose, ne donnant aucune prise. Ce n'est possible qu'avec cette sagesse-là, cette sagesse qui nous est décrite à travers en particulier le livre des Proverbes, qui revient toujours de nouveau dessus.
On pourrait juste lire un passage dans l'Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité ou pas contentieuse, sans hypocrisie. Modérée et traitable, il y a peut-être un lien à faire avec une autre caractéristique qu'on trouve dans l'épître de Tite concernant le surveillant, c'est-à-dire non adonné à son sens.
On pourra peut-être revenir sur l'épître de Jacques. Je voudrais lire aussi dans 1 Corinthiens, premier chapitre, la suite de ce que vient d'exprimer Jacques aussi. 1 Corinthiens 1, verset 30. Vous êtes de lui, de Dieu, dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire que Christ, le Christ Jésus a été fait sagesse de la part de Dieu? Cela veut dire que si nous dépendons du Seigneur dans notre vie, eh bien, le Seigneur va nous donner la sagesse qui vient d'en haut. Et donc, nous voyons que maintenant que nous appartenons à Dieu, que nous sommes de Dieu, dans le Christ Jésus, eh bien, si nous dépendons du Seigneur dans notre vie, que ce soit notre vie journalière, de notre vie d'assemblée, eh bien, Christ a été fait sagesse pour nous de la part de Dieu, et dans sa dépendance, nous allons pouvoir marcher dans la sagesse. Ensuite, un autre verset peut-être dans les Actes au chapitre 6, peut-être qu'on y reviendra quant aux serviteurs. Actes 6. Au verset 3, donc il est parlé des serviteurs et qu'ils aient un bon témoignage plein de l'Esprit Saint et de sagesse. C'est-à-dire le Saint-Esprit, donc notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est une chose. Mais nous devons être aussi spirituels. C'est deux choses différentes que de posséder le Saint-Esprit et d'être spirituel. On peut être un chrétien qui possède le Saint-Esprit et être charnel. Et donc, nous devons être pleins de l'Esprit Saint, dans le cas de ses serviteurs, de l'Esprit Saint et de sagesse. C'est-à-dire, si nous dépendons de Christ qui est dans le ciel, nous aurons de la sagesse, mais le Saint-Esprit qui est en nous, s'il n'est pas entravé dans son action, eh bien, nous donnera aussi la sagesse dans nos voies, dans ce que nous pouvons vivre pour le Seigneur. Et dans Ésaïe, au chapitre 11, si vous vous souvenez, il nous est parlé de l'Esprit, et il est nommé à propos de l'Esprit de l'Éternel qui reposera sur Christ, donc Ésaïe 11, verset 2, « Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. » Ça recoupe ce qu'a exprimé notre frère tout à l'heure. Donc, un surveillant, si on aspire à la surveillance, eh bien, Dieu peut nous donner la sagesse, donner à ce surveillant la sagesse pour veiller sur le troupeau, dans la dépendance avec le Seigneur, et aussi si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, qui est un esprit de sagesse et d'intelligence. Et le troisième verset que nous pouvons lire à ce propos, nous le trouvons dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, sauf erreur, verset 16, « Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre. » Pour être sage dans nos voies, nous devons dépendre du Seigneur, de vivre dans sa dépendance. Il faut que rien n'entrave l'action du Saint-Esprit en nous, et nous aurons cet esprit de sagesse. Et le troisième point, nous devons être nourris de la parole de Dieu. Il faut que la parole du Christ habite en nous, pas pauvrement, mais richement, en toute sagesse. Et à ce moment-là, nous serons enseignés et nous pourrons exhorter l'un l'autre. Pour reprendre ce qui nous a été lu dans l'épître de Jacques, nous voyons que la sagesse vient d'en haut et la source de la sagesse est dans le ciel, elle est en Dieu et donc elle vient d'en haut. C'est-à-dire nous n'allons pas la trouver ni dans l'homme ni sur la terre. Et il faut se souvenir, selon l'expression de 1 Corinthiens 15, que nous sommes des célestes. Et comme des êtres maintenant célestes, eh bien, nous devons rechercher cette sagesse qui est d'en haut. Et donc, nous voyons que cette sagesse, elle est premièrement pure, et donc la pureté est un des caractères de Dieu. La pureté, et donc cette sagesse, elle est digne de Dieu. Le second point, c'est que elle est paisible. On a dit aussi qu'elle était, si je me souviens bien, pacifique. Et donc, nous avons à promouvoir la paix dans nos relations. Mais nous voyons que Dieu nous dit dans sa parole que c'est d'abord une sagesse qui est pure. Et la paix vient ensuite. Et souvent, notre tendance naturelle dans l'assemblée, c'est de chercher la paix dans nos relations, alors que la sagesse d'en haut met en avant d'abord la pureté et la paix vient au second rang. Et donc, il y a toujours ce danger de mettre la paix en premier et de mettre la pureté en dernier. Elle est modérée et traitable, c'est-à-dire elle est absolument en contraste avec la sagesse humaine qui est souvent dure et orgueilleuse et qui veut toujours faire la différence et qui veut toujours s'imposer. Ensuite, elle est miséricordieuse, pleine de miséricorde et de bons fruits. Et donc, elle est une aide précieuse pour les âmes en particulier qui sont dans les difficultés ou qui sont tombées. Et nous voyons que si nous agissons par cette sagesse qui vient d'en haut, nous ne ferons pas de mal mais même pour les âmes qui pourraient être fautives ou dans des mauvaises voies, nous voyons qu'elle leur apportera ce qui vient de Dieu pour peut-être les redresser.
Peut-être qu'il est intéressant aussi de considérer le passage d'1 Pierre, chapitre 5, sur les anciens, à ce sujet, juste pour comprendre qu'il est dit aux anciens, chapitre 5, verset 2, qu'ils doivent paître le troupeau de Dieu. Et ensuite, au verset 4, il est parlé du souverain pasteur, qui est le Seigneur Jésus. Comme si le Seigneur Jésus est le grand berger de son troupeau, du troupeau de Dieu, et qu'il y avait des bergers adjoints, qui sont les anciens, et qui paissent le troupeau de Dieu. Et donc, ce fait que les caractères du Seigneur Jésus comme ce souverain pasteur doivent être aussi celles des bergers adjoints, de ces anciens qui paissent le troupeau. Et on voit dans ces caractères moraux qui nous sont donnés, notamment celui qu'on a devant nous en étant sage, et si on fait le rapport avec le Seigneur Jésus qui est Dieu, qui discerne ce qu'il y a dans les cœurs, qui a la connaissance de Dieu, qui a la sainteté de Dieu comme un sujet principal, ou comme un des sujets principaux, la gloire de Dieu en tout cas, eh bien on voit qu'un ancien, il doit, par la parole, avoir ce même comportement. Et du coup, quand on voit aussi cette notion de sage qui est donnée dans Tite, et le fait que, comme il a été dit, que nous les hommes, nous n'avons pas la perfection du Seigneur Jésus, et nous avons nos faiblesses et nos limites, on peut sans doute comprendre qu'un ancien, c'est quelqu'un qui est sage, qui est juste, comme il est dit dans l'Épître à Tite. C'est quelqu'un qui va être pondéré, qui va être réfléchi, qui ne va pas se figer sur sa première impression, mais qui va essayer de sentir le fond des choses. Et c'est sans doute un caractère moral qui est important pour un ancien dans la conduite, dans le fait de paître, de conduire le troupeau et d'apprécier, de discerner les choses selon la pensée de Dieu, et donc n'ayant pas les caractères forcément du Seigneur Jésus tout de suite, il y a cette notion de vouloir discerner les choses, pas de se laisser aller à la première impression. Et ça aussi va dans le sens de ce que nous avons lu dans l'Épître de Jacques, qui est modéré, traitable, et aussi vis-à-vis du caractère qui est donné dans l'Épître à Tite, non à donner à son sens. Non à donner à son sens, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'insiste pas sur ses pensées habituelles, c'est quelqu'un qui n'est pas obstiné ou qui a du mal à admettre ce qu'il pense différemment de lui, ou qui a du mal à supporter la contradiction. Et on voit que ces caractères, l'ensemble de ces caractères vont dans le sens d'anciens, de surveillants qui ont ce caractère réfléchi. Alors ça ne veut pas dire qu'ils acceptent tout, ça ne veut pas dire que il y a la pureté, il y a la parole de Dieu. Quand on parle de la sagesse, il y a la crainte de Dieu, donc c'est vraiment la sainteté est là, mais il y a la manière d'amener à la sainteté qui est pleine de pondération, de réflexion, pour ne pas se tromper. Et ça, c'est sans doute aussi un caractère qui est souhaitable pour pouvoir amener le troupeau, le conduire dans le chemin. Et puis juste peut-être une pensée en rapport avec irrépréhensible, où il est dit irréprochable dans l'Épître à Tite. On a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas qu'il y ait un sujet de répréhension, et effectivement, on peut se dire que peut-être il y a certains frères, on sait qu'on ne peut rien leur reprocher, parce que, pas parce qu'ils sont, bien sûr, ils sont irréprochables devant Dieu, parce qu'ils ont été sauvés, que leur péché a été lavé, mais même, il n'y a pas de sujet sur lequel on peut leur reprocher quelque chose, parce que s'il y avait eu un problème, une tension, une dispute avec quelqu'un, ben, ils ont demandé pardon. Donc le pardon la relation a été consommé, on pourrait dire, a été produit, et donc il n'y a pas de reproche à faire. Donc c'est aussi quelque chose qui est, encore une fois, dans le modèle. Il est parlé du modèle du troupeau, c'est aussi cette notion-là d'être des modèles dans le fait d'être irréprochable.
On va voir les anciens, les surveillants, de s'appuyer sur le Seigneur pour en avoir sa sagesse. Mais ce n'est peut-être pas un exercice qui est complètement solitaire. L'assemblée a un rôle à jouer, il doit prier pour ses anciens. Je ne sais pas si le verset qui m'est venu est le plus approprié, mais je vais le lire quand même dans Hébreux 13, verset 17. « Obéissez à vos anciens et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte. » On retrouve aussi un peu cette idée par rapport au souverain pasteur. Il y a une responsabilité aussi des anciens et des conducteurs, afin qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne vous sera pas profitable. Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience, un des caractères que doivent avoir les anciens, désirant de nous bien conduire en toutes choses, un autre des caractères. On a rappelé la faiblesse de notre état sur la terre, et on a besoin les anciens ont besoin des prières de toute l'assemblée pour que leur travail soit utile et appuyé sur le Seigneur.
On peut ajouter quelque chose sur Hébreux 13. C'est une expression tout à fait remarquable qu'il veille pour vos âmes. On a dit que les surveillants et les conducteurs, ils veillent à la prospérité spirituelle des croyants dans l'assemblée. La prospérité spirituelle. Ils veillent pour vos âmes. Et c'est-à-dire qu'ils sont aptes ou capables, par leur expérience avec Dieu, de conseiller, d'exhorter, de reprendre. Et on peut dire que ils font office, donc, ces conducteurs de pasteurs, et ils doivent avoir donc ce discernement spirituel et en particulier pour ceux qui manquent d'expérience. C'est-à-dire que les anciens, ceux qui ont un âge avancé, ils ont plus d'expérience. Et les plus jeunes ont moins d'expérience. Et donc, nous voyons le lien entre les anciens, les conducteurs, qui ont maintenant ce désir de veiller sur les âmes de ceux qui ont moins d'expérience. Et que, comme vient de le dire Nathanaël, c'est aussi, bien sûr, lié à la prière, verset 18, « Priez pour nous ». C'est-à-dire, au fond, les conducteurs, les anciens, les surveillants, ils ont besoin d'être soutenus par les prières des saints. Il y a ce mot maintenant, « honorable », « sage honorable ». Honorable, cela veut dire digne. Et si nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, dans les 12 premiers versets de 1 Thessaloniciens 2, nous voyons les qualités d'un ministre de Dieu. Et l'apôtre Paul donne son exemple comme apôtre et comme serviteur de Dieu. Et nous voyons au verset 12 que le but d'un ministre de Dieu, d'un serviteur, eh bien, c'est que, au verset 12, « pour que vous marchiez d'une manière digne de Dieu ». C'est cela, marcher d'une manière honorable. C'est faire honneur à notre Dieu. Et avoir peut-être plus la conscience que Dieu nous voit, il nous suit de ses yeux, Et est-ce que nous avons à cœur, dans les détails de notre vie, que ce soit les frères et aussi, bien sûr, les sœurs, et de marcher d'une manière digne de Dieu, d'une manière honorable. Peut-être encore sur le mot hospitalier, on peut lire dans le Deutéronome au chapitre 10, hospitalier, c'est l'origine du mot, c'est celui qui aime l'étranger. Hospitalier, c'est d'abord celui qui aime l'étranger, comme cela nous est dit dans Hébreux 13 aussi. Et dans Deutéronome au chapitre 10, il nous est dit: le Dieu grand et puissant, verset 17, le Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne prend pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve et qui aime l'étranger pour lui donner le pain et le vêtement. Hospitalier, nous voyons que c'est aussi un caractère divin que nous devrions porter si nous avons ce désir d'aspirer à la surveillance. Et nous voyons que Dieu lui-même aime l'étranger pour lui donner le pain et le vêtement. Et donc, nous sommes exhortés tous, puisque ces caractères moraux du surveillant, bien nous devrions aussi les porter. Hospitalier, ça veut dire que notre maison est ouverte, et une maison ouverte aux saints et aux étrangers. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où nous pouvons manifester le plus l'amour que nous pouvons porter pour les saints et pour les étrangers. Et cela doit être quelque chose de spécifique aussi pour le surveillant, c'est-à-dire il doit être un exemple pour tous, c'est-à-dire aussi accueillir les frères et les sœurs de passage, offrir l'hospitalité aussi ceux qui sont sortis pour Christ.
On peut remarquer qu'on a là plusieurs caractères qui se relient d'une certaine manière. Hospitalier, on peut le relier à tous ces... Ça se relie à tout ce qui touche au fonctionnement, si on peut dire, d'une maison. Qu'on a d'abord eu déjà le mari d'une seule femme, plus loin on aura conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité, et puis hospitalier, la porte ouverte pour recevoir. C'est un ensemble de caractères, chacun qui a son aspect particulier, son domaine particulier, mais qui ont en commun ce qui se passe, la manière dont fonctionne la maison du surveillant. Cette espèce d'ensemble de choses qui sont en accord les unes avec les autres, qui chacune participe à ce fonctionnement, qui chacune est un aspect de témoignage de la marche du surveillant et qui crée ce milieu hospitalier où celui qui est reçu se sent bien, se sent reçu. C'est quelque chose de précieux, ce sentiment d'être reçu. Michel a fait une allusion, je pense que tu faisais une allusion à Jean 3, par rapport à recevoir, ne pas recevoir, et il y a il est parlé là au verset 5, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères, et ça là, envers ceux-là même qui sont étrangers, qui ont rendu témoignage à ton amour devant l'Assemblée, et tu feras bien de leur faire la conduite d'une manière digne de Dieu, car ils sont sortis pour le nom, ne recevant rien de ceux des nations. Nous donc, nous devons recevoir de tels hommes, afin que nous coopérions avec la vérité. ça va au-delà de l'hospitalité individuelle, mais l'hospitalité individuelle est certainement inclue là-dedans, d'autant plus que les versets suivants nous donnent le contraste de Diotrephe, qui ne les reçoit pas, fin du verset 10, il ne reçoit pas les frères, il empêche ceux qui veulent les recevoir, et il les chasse de l'assemblée. Voilà le contre-exemple solennel du surveillant. Un Diotrephe qui agissait par bien des manières, avant il est dit qu'il voulait être le premier, qui agissait de bien des manières en sens exactement opposé à ce qui est recommandé de l'ancien, avec ce côté-là de recevoir, alors il s'agit de recevoir des frères qui étaient sortis pour le nom du Seigneur. C'est une des facettes aussi de cette hospitalité.
Juste un mot pour compléter, conduisant bien sa propre maison, c'est-à-dire au fond, le surveillant, il a prouvé son aptitude à être un surveillant dans une sphère plus petite et plus humble, c'est-à-dire dans sa propre maison. Ayant prouvé sa piété au sein de sa propre maison, dans une sphère beaucoup plus humble, et bien ainsi, il montre son aptitude à s'occuper aussi du troupeau de Dieu.